magazine des Nations Unies.
Célébration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, c'était vendredi dernier. La RDC, théâtre, creuset, réceptacle des gestes d'humanité et de compassion. Docteur Mamadou Diallo l'a souligné mercredi dernier et c'est la grande actualité de cette édition. Il faut 1,9 milliard de dollars américains pour mettre en œuvre le plan stratégique multisectoriel en nutrition en RDC. Plus d'une trentaine d'experts nationaux et internationaux sous l'égide du Programme national de nutrition Pronanut et l'appui de l'UNICEF ont validé vendredi ce plan qui porte sur 5 ans à venir. Les détails avec Jean-Pierre et Lali Coco dans ce magazine. Autre actualité, 191 enfants réunifiés avec leur famille de janvier à juin 2016 par le Comité international de la Croix-Rouge, CICR. À ce sujet, le magazine des Nations Unies reçoit Madame Christine Chipola et les chefs de délégation du CICR en République démocratique du Congo. Enfin, un peu plus de 7000 recrues de la base militaire de Kitona et du centre d'instruction de Moura dans l'ex-Katanga, l'école du droit humanitaire, des notions VIH-SIDA, des droits de l'homme, de la protection de l'enfant et du genre. Une mission de formateurs des sections substantives de la MONUSCO s'est rendue sur place la semaine dernière. Un expert de la section de la réforme de la sécurité de la MONUSCO est notre invité ce dimanche.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous, nous le disons dans le sommaire, le monde a célébré la journée de l'action humanitaire, une journée consacrée le 19 août et dont l'objectif est de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui apportent une assistance aux populations en détresse. Depuis deux décennies, la RDC est l'un des pays où les besoins humanitaires sont les plus grands. Mais depuis son accession à l'indépendance, ce pays offre également au monde un exemple rare d'une générosité dont fait montre son peuple face aux pays voisins. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général en RDC l'a reconnu. Les détails s'avèrent Honoré Missenga Kalala.
La date du 19 août choisie pour célébrer la journée mondiale des aides humanitaires rappelle l'attentat commis le 19 août 2003 contre le quartier général de l'ONU à Bagdad en Irak, un attentat dont le bilan était de 22 morts parmi le personnel des Nations Unies. En consacrant donc cette date, l'Assemblée générale de l'ONU a voulu rendre hommage aux acteurs humanitaires pour leur assistance aux plus vulnérables à travers le monde. Cette année, plus de 130 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire et c'est sous le thème « Une seule humanité » que cette journée mondiale a été placée. Docteur Mamadou Diallo, coordonnateur humanitaire en RDC, en a donné l'explication mercredi au cours de la conférence des presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa.
Ce thème cherche à inspirer les citoyens du monde à continuer d'exiger des mesures pour atteindre et soutenir les personnes les plus vulnérables et en besoin d'aide humanitaire.
C'est justement le cas pour la République démocratique du Congo.
Il n'y a pas de meilleurs endroits ou d'endroits plus appropriés pour célébrer la journée mondiale humanitaire que la République démocratique du Congo.
Cependant, tout en bénéficiant d'un important appui de la communauté internationale dans la réponse humanitaire en RDC, le premier acteur humanitaire, ce sont les Congolais eux-mêmes, a ajouté le représentant spécial adjoint, Mamadou Diallo.
La République démocratique du Congo est le théâtre, le creuset et le réceptacle d'un geste d'humanité et de compassion dont on ne parle pas assez. Il me plaît de rappeler ici que pendant qu'on célèbre la journée mondiale humanitaire, ce pays continue d'accueillir, au moment où je parle, plus de 375 000 réfugiés. Depuis que ce pays a trouvé l'indépendance, il a fait preuve d'un esprit d'accueil et de solidarité sans précédent dans l'histoire de l'humanité pour accueillir les frères et sœurs africains des pays voisins qui ont fui leur pays pour des causes diverses et qui ont trouvé refuge au Congo. Une personne déplacée sur deux et un réfugié sur deux dans ce pays ne vivent pas dans des camps, ne reçoivent pas d'assistance humanitaire internationale. Ils sont hébergés, accueillis, soutenus, nourris et protégés par les familles congolaises.
Une générosité que le coordonnateur humanitaire préconise de saluer.
Autre chose à présent, la RDC se dote d'un plan national stratégique multisectoriel en nutrition. Ce plan a été validé vendredi dernier à Kinshasa. Mais voilà, il faut 1,9 milliard de dollars américains pour le matérialiser dans les 5 ans à venir. Jean-Pierre Elali Coco a couvert pour nous et pour vous le lancement de ce plan. Suivez son reportage.
6 axes stratégiques, 31 interventions et 127 activités. 13 provinces retenues prioritaires sur les 26 que compte le pays. Et puis, il faut arriver à mobiliser 1 milliard milliards 9 millions de dollars pour sa mise en œuvre. C'est ce qu'il faut retenir du plan national stratégique multisectoriel en nutrition pour la RDC. Une trentaine d'experts nationaux et internationaux l'ont validé vendredi dernier au siège de l'UNICEF à Kinshasa. Un plan dont la mise en œuvre s'étalera sur 5 ans, c'est-à-dire de 2016 à 2020, selon les experts. Le professeur Jean-Pierre Banéa, directeur du programme national de nutrition, Pronanut, donne toute l'importance du plan.
Cet atelier ici se justifie puisque notre pays est l'un des pays où l'insécurité alimentaire ou la malnutrition sont des problèmes prépondérants. En ce qui concerne la malnutrition précisément, vous savez, le taux, quand on prend les enfants de 0 à 5 ans, c'est 43% des enfants qui sont chroniquement mal nourris. Pour vous dire que la malnutrition chronique détruit l'homme, fait de l'homme, en tout cas comme on dit, un cheval non partant, plan intellectuel.
Et pour lui, ce programme n'est pas un plan de trop.
Je ne peux pas dire que c'est un plan de trop, autant l'avoir que de le manquer. Et c'est un plan non multisectoriel en termes de ses activités sur le terrain, mais pour l'applicabilité, c'est multibailleur. C'est non seulement le gouvernement, mais il y a les organismes internationaux, la Banque mondiale, tout le monde.
Il soutient également que ce plan se situe dans la perspective d'un pays émergent. Et si le Congo veut atteindre cette émergence, il a besoin des hommes et des femmes intelligents. Or, l'intelligence passe avant tout par une bonne alimentation.
L'homme politique, lui, voit le Congo de demain comme un Congo fort, émergent. Mais vous ne pouvez pas le faire avec des chevaux non partants. Et comme la malnutrition, ça diminue l'intelligence des gens moins intelligents. Non. Pour être émergent, vous devez le faire avec des hommes valides qui ont un conscient intellectuel élevé et qui se manifestent par un bon raisonnement, des bons actes, des bons comportements. Et la créativité, la productivité.
Autre aspect non négligeable, c'est le coût, donc le financement. À ce sujet, Eric Duréré, économiste de formation, représentant de la maison Act for Performance, le consultant qui a fait le costing, parle de plus d'un milliard de dollars pour soutenir ce programme.
Les coûts du programme, c'est 1 934 674 $. Voilà, ça c'est les coûts sur 5 ans. Donc, c'est multisectoriel que vous l'avez dit, il y a les activités directes à la nutrition, mais aussi les activités sensibles à la nutrition, donc par exemple le secteur comme l'agriculture, le secteur comme l'éducation, eau et assainissement. Donc.
Maintenant, il faut en même temps mobiliser les ressources. Les efforts du gouvernement ne suffiront pas, certes. Il faut engager d'ores et déjà, comme l'a soutenu le professeur Banéa, un plaidoyer auprès des bailleurs de fonds et des partenaires séculiers et traditionnels comme l'UNICEF, le PAM et la Banque mondiale, pour ne citer que cela, pour enfin espérer réussir le plan national stratégique multisectoriel à l'horizon 2020.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Nous le disions également, le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, a réunifié 191 enfants avec leurs familles au cours du premier semestre 2016 en République démocratique du Congo. La majorité de ces réunifications ont eu lieu dans l'est du pays, avec près de 50% des cas dans le Nord Kivu. Madame Christine Chipola, chef de délégation du CICR en RDC, explique comment se passe ce processus de réunification et les difficultés auxquelles le CICR fait face dans cette mission. Elle répond aux questions d'Honoré Missinga Kalala.
Christine Chipola, bonjour.
Bonjour Monsieur Honoré, merci beaucoup de me recevoir.
Madame, vous avez rendu public le dernier rapport du CICR intitulé « Faits et chiffres, premier semestre 2016 ». Ce rapport parle notamment des retrouvailles familiales au profit d'un certain nombre d'enfants. Combien d'enfants ont retrouvé leur famille et dans quelle partie du pays ?
Durant le premier semestre de 2016, donc de janvier jusqu'à juin, le CICR a réunifié 191 enfants. Parmi les 191, 94 ont été réunifiés dans le Nord Kivu et les autres réunifications ont été faites dans le reste du pays, principalement dans le Haut-Ouélé, dans le Haut-Katanga, dans le Sud Kivu et dans le Sud Katanga. Donc le chiffre à vraiment retenir, c'est 191 enfants en 6 mois.
191 enfants pour combien de filles ?
Parmi ces 191, on parle de 60 filles.
Quelles actions concrètes ont été entreprises par votre structure pour réunir ces enfants avec leurs familles ?
Le processus en général de réunification commence par l'enregistrement des enfants qui ont été séparés de leurs proches. La séparation peut être due suite à un conflit armé, suite à une situation de violence. Le CICR commence par les enregistrer. Ensuite, on engage un processus de recherche qui est enclenché en vue de localiser ces familles. Et dès le moment où les familles acceptent de recevoir les enfants et les enfants sont d'accord pour rentrer, alors nous organisons le déplacement des enfants vers les familles pour la réunification finale.
Alors le processus de recherche des familles peut prendre combien de temps généralement ?
Tout dépend de la localisation des familles, de l'accès aussi, où les familles se situent. Généralement, le temps est relativement court. On essaye de vraiment travailler au plus vite dans l'intérêt des enfants et des familles, pour les réunir au plus vite.
191 enfants réunis dans leur famille pendant la période de janvier à juin 2016. Et pour la même période en 2015, c'était combien d'enfants ?
En comparaison, pour la même période en 2015, on avait réunifié 460 enfants. Vous apercevez bien que le chiffre est beaucoup plus élevé, dont parmi ces 460 enfants, 91 filles. Et de janvier à juin 2016, on a une baisse de près de 60% parce que beaucoup moins d'enfants démobilisés nous ont été adressés pour cette réunification. Donc ceci explique la baisse de 460 à 191 pour cette année.
J'imagine que le CICR n'est pas seul dans ce travail. Vous avez certainement des partenaires. Qui sont-ils, ces partenaires ?
Absolument. La réunification familiale fait partie des activités qu'on appelle au CICR le rétablissement des liens familiaux. Mais en République démocratique du Congo, la réalisation de toute cette activité est rendue possible grâce à un partenariat opérationnel que le CICR a développé avec la Croix-Rouge de la RDC. La Croix-Rouge dispose d'un réseau de rétablissement de liens familiaux qui s'est à la quasi-totalité du territoire. Donc, en partenariat avec la Croix-Rouge de la RDC, nous travaillons afin de réunir les familles dans un plus bref délai.
À vous entendre parler, Madame Christine, c'est comme si tout allait sur des roulettes. Pas de difficultés par rapport à cette mission ?
Très bonne question. On a évidemment des difficultés multiples, des difficultés variées. Je vais vous en citer quelques-unes. Une de ces difficultés est l'absence du consentement de certains enfants ou de certaines familles pour la réunification. Une autre de ces difficultés touche aussi, par exemple, à l'insuffisance ou l'inexactitude des données, c'est-à-dire, par exemple, les adresses fournies pour rechercher la famille. Une autre difficulté sont certaines zones qui sont temporairement ou de manière permanente inaccessibles. Enfin, on a aussi des contraintes logistiques, parfois, qui sont liées aux infrastructures de transport dans certaines zones du pays. Donc, en fait, ces difficultés ou ces défis, nous y sommes confrontés relativement souvent, mais nous essayons toujours de travailler pour arriver à notre objectif, justement, en partenariat avec la Croix-Rouge de la RDC, pour arriver à notre objectif qui est la réunification familiale. Dans cette entreprise de réunification familiale, nous avons également une bonne coopération avec le gouvernement, nous avons une bonne coopération avec des partenaires locaux et nationaux, afin toujours de pouvoir réunir les enfants à leur domicile.
Madame, le CCR a un mécanisme de suivi pour les enfants ramenés dans leur famille, ou bien, une fois que l'enfant est réunifié avec sa famille, votre travail s'arrête là.
Le CICR a un processus de suivi. Et ce processus de suivi a plusieurs étapes. La première étant donc la réunification physique entre l'enfant et sa famille. Il est primordial pour le CICR d'évaluer la situation des enfants une fois qu'ils ont été réunifiés. Donc ça se passe dans les mois qui suivent cette réunification. Ce suivi qui a été mis en place va permettre d'assurer que l'enfant soit intégré effectivement dans sa famille et aussi au-delà de la famille dans sa communauté. Et si des problèmes majeurs sont détectés, par exemple au cours de ce suivi, une médiation pourra être initiée. Par exemple avec la famille ou avec la communauté. Toujours ce qui est regardé, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc nous avons des étapes et après la réunification physique, ce processus se met en place immédiatement.
Peut-être un mot de la fin par rapport à la mission du CICR en RDC, par rapport aux autres activités, parce qu'il n'y a pas que la réunification familiale.
En effet, le CICR en RDC a une palette d'activités très riche, très variée, qui concerne un vaste domaine d'activités. Mais étant donné la situation présente, j'aimerais rajouter un mot par rapport aux récentes attaques qui ont eu lieu à Béni, et juste pour mentionner que le CICR est très concerné par rapport à ces récentes violences qui ont eu lieu à Béni. Et nos pensées profondes vont aux victimes de ces attaques, et le CICR espère évidemment que la violence contre la population civile va cesser. De notre côté, nous continuons de suivre l'évolution, et évidemment de pouvoir intervenir en cas de blessés, en cas de déplacement éventuellement. Donc nous sommes prêts, nous sommes très concernés par ces violences.
Madame Christine Kipola, merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Capi.
Merci à vous de m'avoir invité.
Et nous commençons ces brèves par cette réaction des Nations Unies au massacre de Beni. D'abord, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est déclaré consterné par le massacre des civils perpétré samedi 13 août, non loin du village de Rangoma en Nord-Kivu, en RDC, par des membres présumés des forces de défense alliées. Dans sa déclaration mercredi dernier, Ban Ki-moon a condamné dans les termes les plus forts cette dernière attaque dans le territoire de Beni, où, depuis octobre 2014, des centaines de civils ont été tués par des membres présumés de l'ADF. De son côté, le Conseil de sécurité a également condamné dans des termes très forts le massacre des civils et exprimé sa profonde préoccupation face à la persistance des violences dans cette région, où plus de 700 civils ont été tués depuis octobre 2014. Sur le plan d'urgence humanitaire, le Fonds central des interventions d'urgence, CRF, vient d'allouer une enveloppe de 11 millions de dollars américains pour répondre à des opérations humanitaires sous-financées en République démocratique du Congo. 9 projets des agences du système des Nations Unies seront financés et selon la source, 3,5 millions de dollars de cette somme sont destinés à répondre à la crise des réfugiés sud-soudanais dans le Haut-Uele, dans plusieurs secteurs, notamment celui de la sécurité alimentaire. L'assistance va cibler un total de 12 000 réfugiés sud-soudanais, ainsi que 8 000 personnes des communautés d'accueil. Culture pour terminer, la division de l'information publique de la MONUSCO appuie l'organisation de la deuxième édition du Festival international de musique chorale Nuit des Cœurs de Kinshasa, organisé par l'association culturelle Les Cultards. Ce festival de deux jours s'achève en principe ce dimanche à la place des Évolués de Kinshasa. Il a réuni 15 meilleures chorales de la RDC et d'ailleurs avec comme thème « Je chante pour la paix ». La chorale de la MONUSCO Peace and Love participera également à ce festival.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Près de 7000 recrues de la base militaire de Kamina et du centre d'instruction de Moura, dans l'ex-province du Katanga, ont reçu la semaine dernière une formation sur l'éducation civique menée par les différentes sections substantives de la MONUSCO sous la coordination de l'unité des réformes du secteur de la sécurité de la mission RSS. Maître Raïm Vouemba, assistant RSS, revient sur cette formation qui entre dans la ligne droite de la réforme de l'armée nationale. Il répond aux questions de Jean-Pierre Lali Coco.
Maître Raïm Vouemba, bonjour.
Bonjour Monsieur Lali.
Vous êtes assistant à l'unité réforme du secteur de la sécurité de la MONUSCO. Le RSS vient de conduire une équipe des unités substantives de la MONUSCO, respectivement à Moura et à Kamina. C'est dans l'ex-province du Katanga. Quel a été, maître, l'objectif et le but de cette mission?
D'abord, je tiens à signaler que l'unité RSS, qu'on appelle réforme du secteur de la sécurité de la MONUSCO, a pour rôle de coordonner et d'harmoniser les efforts concrets de partenaires internationaux et sections substantives de la MONUSCO qui travaillent en appui au gouvernement congolais dans la thématique de réforme du secteur de la sécurité. À ce titre, donc, nous venons de conduire une mission de sensibilisation de recrues de FRDC en partenariat avec les SECAS, les services d'éducation civique et action sociale de FRDC, et en collaboration avec les sections telles que le VIH et SIDA, les violences sexuelles, la protection de l'enfant, avec pour objectif de contribuer à la promotion de la paix et de la sécurité en RDC par la réduction des violations des droits de l'homme, y compris des populations vulnérables commises par les personnels en uniforme. Cette activité vise également l'établissement d'institutions de la sécurité qui sont professionnelles et redevables.
Et alors, dans ces cas-là, ça concernait justement les recrues?
Oui, ça concernait les recrues.
Parlons de l'étape de Moura avant tout. Quelles ont été les activités menées sur le terrain et les réactions, bien entendu, de recrues et de bénéficiaires de cette formation et même des autorités militaires sur place?
Au fait, il était question de sensibiliser les recrues sur les thématiques telles que les droits de l'homme, les violences sexuelles, les VIH, SIDA, la protection de la femme. Au fait, nous avions inculqué le valeur morale et éthique aux recrues de manière à contribuer avec efficacité au renforcement de leur savoir-être. Ainsi, nous avions donc trouvé les recrues très réceptifs au message, c'est-à-dire qu'il y avait une bonne interaction, et nous avons senti qu'au niveau des autorités militaires, ils avaient très bien apprécié notre approche de travail, et elles étaient même impliquées dans le déroulement de cette sensibilisation.
Voilà, concrètement, comment s'est passée la formation?
C'est-à-dire que nous avions réparti le recrut en 5 stands. Et donc, il y avait des formateurs qui passaient.
Et au total, il y avait combien de recrues dans l'étape de Moura?
À l'étape de Moura, nous avions pu sensibiliser 3303 recrues. Et donc, le formateur passait dans le stand et donnait des cours sur les thématiques qu'il vient développer tantôt.
Donc, ce sont en quelque sorte des modules de formation, c'est ça?
C'était des modules de formation qui avaient été conçus en son temps par le CECAS. C'est le service d'éducation civique et action sociale des FRDC, avec l'appui des partenaires.
Et alors, maître, l'étape de Kamina était sans doute déterminante dans la formation de recrues, vous l'avez dit. Comment se sont déroulés alors le module de sensibilisation, là aussi, et quel intérêt des apprenants, donc les recrues, et les autorités militaires ont porté à cette formation?
Bon, je dirais qu'à l'étape de Kamina, nous avions sensibilisé d'abord 3715 recrues. Et donc, au niveau de Kamina, la session s'est très bien déroulée. Et là, il y a une particularité, ce que nous avions aussi sensibilisé les instructeurs et cadres du centre d'instruction.
Ça n'a pas concerné les démobilisés?
Non, non, la formation a essentiellement concerné le recrut. Ça s'est passé comme ça s'est passé aussi à l'étape de Moura, c'est-à-dire que c'était seulement des enseignements qu'on donnait, une sensibilisation de masse au profit de tout le recrut qui était là au niveau de la base de Kamina.
Vous avez parlé d'une particularité, c'est que c'était les officiers qui ont reçu aussi cette formation. Pourquoi cette formation aux officiers aussi, aux instructeurs?
Bon, nous l'avions fait parce que après notre passage, eh bien, les instructeurs qui sont là au niveau de leur centre, ils vont continuer avec les mêmes enseignements.
Pour pérenniser la.
Et pour pérenniser justement les enseignements.
Quels sont les grands enseignements que vous tirez de l'éducation civique que vous avez donné aux recrues des Kamina et puis des Moura?
D'abord, au niveau des Kamina et des Moura, on a trouvé des recrues qui avaient une très bonne moralité.
Ils se comportaient bien?
Ils se comportaient bien et ils étaient très déterminés à pouvoir servir sous le drapeau. Mais je dois aussi dire que l'éducation civique est donc indispensable pour les militaires des FRDC en général. En effet, après la formation tactique et technique qui porte généralement sur les maniements de fusil et les stratégies de combat, les militaires doivent avoir une bonne dose de morale. Sinon, ils risquent d'être considérés comme un danger public pour la population et passeraient à côté de l'objectif pour lequel il a été recruté.
Lorsque vous avez donné cet enseignement-là, est-ce que vous avez remarqué un changement de comportement dans les chefs des recrues, par exemple, et même de certains instructeurs? Est-ce que vous l'avez senti?
Déjà sur place, il y avait des réactions telles que désormais, on ne va plus continuer à taper nos collègues. Désormais, on va se comporter avec une certaine humanisme vis-à-vis des recrues. Ça, je parle bien sûr des recrues qui avaient changé de langage. Ils disaient, à partir des enseignements qu'ils ont reçus, ils vont changer leur manière de se comporter. Ils vont changer leur manière d'encadrer le recrue.
Vous avez été à Moura, c'est à quelques kilomètres de Likassi, je comprends. Et vous avez été aussi à Kamina. Alors, la prochaine étape, c'est quoi pour le cette de formation?
Au fait, la prochaine étape dépend de la planification des FRDC. Mais l'idéal pour nous est que nous puissions sensibiliser tout le recrue des FRDC. Et donc, ça dépendra de la programmation des FRDC. Mais sinon, nous sommes très disposés pour pouvoir les appuyer dans ce sens.
Et cette formation, c'est notamment dans les bases militaires?
Généralement, nous donnons dans les bases militaires, au niveau du centre d'instruction, mais nous pouvons aussi aller au niveau des garnisons des unités.
Alors, pour terminer notre entretien, maître Ray Mwemba, un mot sur l'avenir de la collaboration entre la MONUSCO en général et le FRDC dans la réforme de l'armée, notamment dans le secteur de la sensibilisation à l'éducation civique.
Oui, je dirais que l'unité RSS, en tant que partenaire d'appui au gouvernement, reste toujours disposée à jouer son rôle de coordination dans cette activité de sensibilisation sur l'éducation civique et compte continuer ainsi sa collaboration avec les CECAS.
Est-ce qu'il y a un agenda qui est mis en place?
Au fait, nous sommes déjà en partenariat avec les CECAS et donc nous continuons dans ce que nous avons planifié avec eux.
Donc il y a une planification d'activité, c'est
oui.
Ça?
Oui.
Voilà. Maître Mwemba, Radio Kapi a eu l'honneur de vous recevoir aujourd'hui. Elle vous remercie d'être venue dans ses studios.
Je vous remercie.
Réunification familiale, on y revient encore, pas avec le CICR dans l'est du pays, cette fois-ci c'est plutôt dans la partie ouest, précisément à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. 4 jeunes garçons ont retrouvé mercredi dernier leur famille. Ils venaient de Businga, dans le nord Ubangi, il y a un mois. Ces enfants, âgés entre 13 et 16 ans, ont été interceptés par la DGM en compagnie d'une dame qui se faisait passer pour leur mère. Madame Marie-Josée Molebo, présidente d'une ONG locale, salue donc l'implication de l'UNICEF dans le dénouement de cette affaire de trafic d'enfants. enfants. Les propos de Madame Molebo, micro de Paul Richard Malengila.
Nous avons gardé ces enfants par les moyens des bords. Maintenant, moi je ne fais que remercier l'UNICEF parce que l'UNICEF a fait son devoir de rapatrier ces enfants à travers la coordination des affaires sociales. C'est une interpellation parce que les deux gouvernements d'ici d'Obangui et celui de l'Équateur doivent prendre en charge cet aspect-là. Ils doivent vraiment collaborer pour essayer de mettre fin à ce système-là. Et les enfants sont victimes. Aujourd'hui, on peut croire qu'il faut aller soit au Sidoubangui chercher les enfants pour aller les vendre ailleurs. Mais il faut tout faire pour bloquer ces mécanismes-là. Les parents aussi sont complices. Il y a des gens qui vont là-bas au village et ils négocient avec les parents. Les parents aussi acceptent que ces enfants aillent comme ça et demain peut-être ils vont revenir pour leur apporter des trésors, du bien, ce n'est pas bon. Il faut travailler pour qu'ils fassent étudier leurs enfants pour que demain aussi ces enfants puissent prendre la relève.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La question de ce dimanche porte sur la justice transitionnelle pour juger tout ce qui continue de massacrer les populations civiles. Écoutez plutôt la question d'une consoeur de la RTNC2 et la réponse du docteur Mamadou Diallo.
RTNC2 Développement Laetitia Massela, en sa qualité d'institution relevante de Nations Unies, pourquoi la MONUSCO ne parvient-elle pas à susciter l'idée de création d'un tribunal efficace enfin de commencer à juger déjà le milicien et éléments appartenant aux forces négatives qui sèment la mort en l'est de la République démocratique du Congo. Merci.
Votre question renvoie peut-être à la discussion beaucoup plus globale sur le sujet que l'on appelle la justice transitionnelle, c'est-à-dire des mécanismes de justice spécifiques en situation de conflit ou de post-conflit pour juger des individus responsables de graves violations des droits humains, y compris de massacres de populations. Il est peut-être utile de rappeler ici que, bien qu'il y ait l'action des groupes armés à l'est de la République du Congo, la RDC est un pays stable avec des institutions qui fonctionnent, parmi lesquelles un appareil judiciaire qui fonctionne correctement. Ce qui peut-être serait idéal, c'est de pouvoir renforcer les moyens de la justice congolaise dans sa capacité d'investigation, d'enquête et de préparation de dossiers pour pouvoir amener en justice, d'abord identifier et ensuite amener en justice les perpétrateurs de ces crimes-là. Dans un contexte comme celui du Congo, il ne semble pas peut-être nécessaire de recréer une justice transitionnelle parallèle, mais plutôt d'investir dans le renforcement des capacités d'enquête, d'investigation de la justice congolaise, de la police nationale congolaise et des structures congolaises chargées de ce type d'enquête afin qu'elles puissent réunir les éléments nécessaires pour amener les individus responsables de ces massacres devant les juridictions congolaises pour qu'ils ou elles répondent de leurs actes.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Bonjour, je suis Emmanuel Nongera Kan, marié et père de famille. J'ai fait mes études primaires à l'école primaire Yuki Onatra, dans le Maïndombe, ex-province de Bandundu. Et après, je suis allé au collège Saint-Pierre pour les études secondaires, dans la mission catholique IPAM, dans les diocèses d'Idiofa, toujours dans l'ex-province de Bandundu, actuellement Kwilu. Quand j'ai eu mon diplôme d'État en section commerciale et administrative, j'étais inscrit à la faculté de droit à l'université de Lubumbashi, où j'avais eu mon diplôme de licencié en droit, option droit privé et judiciaire. Et à la longue, j'avais senti la nécessité de faire un master pour approfondir mes connaissances. Et là, je suis titulaire d'un master en droit international des droits fondamentaux avec focus protection de l'enfant. Voilà. Je travaille actuellement à la section protection de l'enfant de la MONUSCO comme officier national des protections de l'enfant. Au début, j'avais comme tâche spéciale point focal justice juvénile et à la longue, je deviendrai legal advisor, c'est-à-dire conseiller juridique pour la section protection de l'enfant et partant pour toute la mission. Ma tâche quotidienne, vous savez, la section protection de l'enfant veille à la protection de l'enfant en situation de conflit armé Et comme en situation de conflit armé, les conseils de sécurité a identifié 6 graves violations des droits de l'enfant, notamment le meurtre et mutilation, recrutement et utilisation, attaque contre les écoles et les hôpitaux, refus d'accès à l'assistance humanitaire, l'enlèvement, les viols et violences sexuelles. Je protège les enfants pour qu'ils ne deviennent pas victimes de ces 6 violations graves de leurs droits. Et lorsque ces violations sont commises, je veille à ce que les enfants soient rétablis dans leurs droits et que les auteurs puissent répondre de leurs actes devant les instances compétentes. Et en même temps, pour veiller sur les 6 graves violations des droits de l'enfant, le gouvernement congolais et l'ONU ont signé un plan d'action pour lutter contre le recrutement et les autres violations graves des droits de l'enfant, bien entendu. Et ce plan d'action est mis en œuvre par un groupe de travail technique conjoint qui est piloté par le ministère de la Défense. Et moi, je suis le secrétaire de ce groupe. C'est moi qui prépare les réunions, les comptes rendus, qui propose les sujets pour la tenue des réunions, ainsi de suite. Avant de venir à la MONUSCO, j'ai presté comme avocat au barreau près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pendant environ 8 ans. Et en même temps, j'étais vice-président d'INONG, les défenses des droits de l'homme, dénommé Conseil national des droits de l'homme en islam. Et plus tard, je deviendrai le président de cette organisation. Et tout en étant dans cette organisation, j'ai beaucoup travaillé pour la défense des droits de l'homme parce que j'ai soumetté des communications, comme on dit, à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, au Comité des droits de l'homme. Pendant mon temps libre, je reste avec les amis, j'aime la lecture, je fais les sports, notamment le footing, je fais un peu le vélo et j'aime la musique, la rumba congolaise, surtout comme je suis congolais. Comme perspective d'avenir, j'ai toujours pensé défendre mes semblables devant les instances internationales, comme la Cour pénale internationale, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, ou travailler comme expert dans une instance internationale pour traiter des cas de violation des droits de l'homme. Voilà tout, merci.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Une date à retenir dans votre agenda pour la semaine qui commence, le 23 août. Cette date marque la journée internationale du souvenir de la traite négrière, mais surtout de son abolition. Et c'était la fin de ce magazine des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve le dimanche prochain sur la même fréquence, à la même heure. Ce magazine a été mis en onde par Eric Tessidiakala. Je suis Fina Salama, je vous l'ai présenté. À la coordination et au reportage, on salue Jean-Pierre Elali Coco. Il n'était pas seul, il y a également Omure Missinga. On se retrouve très prochainement sur les antennes de la Radio Kapi. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.